Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse aux grandes vertus et aux quelques vices de la boisson la plus consommée au monde après l'eau, le thé, véritable boisson universelle, du tea time britannique au thé à la menthe du Maghreb, en passant par la cérémonie du thé japonais, ou thé russe servi forcément dans un samovar. Quelles sont les vertus du thé sur notre santé? Comment bien le choisir, bien le préparer? Comment éviter les thés contaminés par les divers polluants? Pourquoi le thé reste-t-il un puissant facteur de civilisation et de convivialité? À votre service ce matin, le docteur Laurent Chevalier et les fous de thé, érudits à souhait, Pierre Rival et Gilles Brochard, avec la complicité d'Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Et vous, pourquoi buvez-vous du thé dès le saut du lit ou dans l'après-midi? Le préférez-vous noir, vert ou blanc? Racontez-nous votre histoire avec le thé et pourquoi cette boisson vous fait du bien. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
En pleine forme après des vacances au soleil. Alors, tout à l'heure, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, il sera question de rituel.
Et oui, puisque s'il est question du thé, du rituel du thé, eh bien on va se demander quelle est l'importance des rites, plus généralement, dans notre vie quotidienne.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous avez 27 ans, vous habitez la bonne ville de Rennes, où je n'ai pas bu que du thé quand j'y étais étudiant. Alors, vous êtes une grande amatrice de thé. Comment êtes-vous tombée dans la théière?
Alors, moi, je suis tombée dans la théière, non pas comme Obélix quand il était tout petit, c'est venu plutôt au niveau de l'adolescence. À la base, voilà, c'est le petit moment qu'on partage souvent avec les grands-parents, les choses comme ça. Puis petit à petit, c'est un moment qu'on se met à aimer nous-mêmes. Puis bon, bah après, une fois qu'on est dedans, c'est parti. Hein.
Quelle buveuse de thé êtes-vous?
J'en bois tout au long de la journée, à toute heure en fait. Hein. Maintenant, je pense qu'on peut dire à peu près ouais, entre 4 à 6 fois par jour peut-être.
Que représente le thé pour vous?
Comment?
Que représente le thé pour vous?
Le thé, pour moi, c'est un moment avant tout de détente. C'est un moment, voilà, où on va pouvoir se poser un petit peu, où on va pouvoir, juste souffler, profiter du moment présent. Et accessoirement aussi un moment de dégustation. Je vois le thé un petit peu comme on peut voir le vin pour certains amateurs. Voilà, c'est le plaisir de découvrir, c'est le plaisir de voir les nouvelles récoltes, le plaisir de pouvoir le partager aussi avec les autres.
Le thé, pour vous, c'est seul ou à plusieurs?
Les deux. Ça dépend quel thé. Il y a des thés que je préfère prendre justement en solo pour pouvoir justement profiter vraiment du moment et déguster un nouveau cru par exemple ou quelque chose d'un petit peu plus pointu et à la fois avec des amis, la famille pour pouvoir profiter, discuter en même temps, partager aussi ses impressions.
Et je crois savoir Lucie que vous appartenez à un club de buveurs de thé, de buveuses de thé.
Oui, c'est bien ça. C'est l'association Les Agités qui se trouve justement dans la région rennaise où on est justement des fous de thé qui se retrouvent aussi pour pouvoir profiter ensemble de notre passion concernant ce très bon breuvage.
Alors avec nous ce matin, Pierre Rival, bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un ouvrage absolument passionnant, une mine d'informations, Le thé pour les nuls, chez First. Bonjour Gilles Brochard.
Bonjour.
Journaliste gentleman, vous avez créé Tea Testing Institute, c'est quoi
Après le club du beurre de thé, je me suis dit qu'il fallait créer une sorte d'institut pour pouvoir promouvoir le thé de façon un peu plus professionnelle.
Et vous avez publié de nombreux ouvrages sur le thé. Votre regard sur le témoignage de Lucie, Pierre Rival?
Moi, je suis enchanté parce que je vois quelqu'un qui est un vrai connaisseur, qui emploie les mots qui font tilt tout de suite. Elle a parlé de cru, c'est-à-dire qu'elle sait que le thé est un produit de terroir. Les Chinois appellent le terroir Fengdu, ça veut dire le lieu et le rite, le lieu et la coutume. Et je vois une connaisseuse qui est capable d'apprécier, de déguster seule, mais qui a aussi compris le rôle social du thé, c'est-à-dire le moment de partage que ça représente.
Gilles Brochard,
Oui, et puis il ne faut pas oublier que la France, c'est peut-être le premier pays d'Europe à avoir autant de salons de thé et de comptoirs de thé. Paradoxe avec les Britanniques, on en reparlera. Et je pense que la France, un peu comme l'Allemagne, défend justement les notions de terroir, de grand cru. Et dans une époque où on parle de traçabilité, c'est important de savoir d'où viennent les thés.
Alors, Lu Yu, maître de thé sous la dynastie Tang, la dynastie qui régna entre 618 et 907, Lu Yu disait « Nous buvons le thé pour oublier le bruit du monde ». Et vous, pourquoi buvez-vous cette boisson multimillénaire, Pierre Rival ?
Parce que c'est une alternative au vin. Je vais mettre les pieds dans le plat. Le thé est aussi important que le vin, et peut-être même plus vu le nombre de gens qui en boivent. Je suis un adorateur du vin, qu'on ne se méprenne pas. Mais on a là la possibilité d'avoir les mêmes effets de dégustation, de connoisseurship, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de connaissance, d'expertise, et de jugement, et même un effet d'excitant, puisque le médecin qui est à côté de moi ne me contredira pas.
Il est
pas.
Médecin de l'âme, Thibaut Saint-Maurice.
Il est médecin, mais il y a des alcaloïdes à l'intérieur du thé, et c'est donc un excitant. C'est d'ailleurs pour ça que les bouddhistes en ont fait leur boisson préférée, et que les Chinois, les bouddhistes chinois l'ont promu dans toute l'Asie.
Gilles Brochard, oui. Pourquoi buvez-vous du thé ?
Un petit peu comme Balzac, hein, qui lui alternait le café et le thé. Enfin, moi je bois pas de café. Lui, il a écrit un traité des excitants modernes où il expliquait bien la place du thé, justement, à la fois dans la société, la vie sociale et puis l'intimité. Hein, c'est tout à l'heure on demandait à la jeune femme si elle le buvait seule ou pas. Justement, c'est une boisson à la fois égoïste et une boisson de partage. D'ailleurs, mettez quand vous êtes dans une maison où il y a une famille ou des amis, vous prenez le thé. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous chipper ou vous interroger. Vous voyez. Et ça, c'est très intéressant.
Lucie, vous avez bu quel thé ce matin?
Ce matin, j'ai pris un long jean classique, un thé vert chinois.
Le meilleur.
C'est le Bordeaux.
Ouais,
c'est le Bordeaux.
Meilleur, je suis c'est pas un tout grand à fait cru. D'accord, mais un des meilleurs.
Il fait partie des, je crois, dans la liste des 10 meilleurs thés chinois. Il est dans les 5 premiers.
Alors. Dans la région du Zhejiang, dont est issu le Longjin, c'est effectivement un thé impérial qui existe depuis le 10e, 11e siècle. Hein. Il est cultivé depuis très longtemps. Et pour les Chinois, c'est l'équivalent du Bordeaux.
Lucie, merci d'avoir témoigné. Pierre Rival, l'un des paradoxes du thé, c'est que c'est la boisson la plus consommée au monde, hein, après l'eau. Mais c'est également un breuvage méconnu.
Absolument, et moi c'est ce qui m'a frappé, c'est un peu ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que au fond le thé reste très peu connu, et je serais pas tout à fait d'accord avec mon ami Gilles Brochard. Je pense qu'en France nous avons un petit retard sur la connaissance du thé. L'Encyclopédia Britannica anglaise au XVIIIe siècle avait déjà une quinzaine de noms de thé qu'ils traduisaient du chinois. Ils avaient une connaissance intime du thé, et nous sommes au démarrage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons de thé en France, mais il n'y a pas encore cette connaissance des terroirs. Et les Français, pourtant, parce qu'ils ont le sens du terroir, devraient être comme les Chinois aujourd'hui qui s'intéressent au vin, partout en Chine, au Japon et à Darjeeling, qui sont pour moi les trois plus grandes régions de production du thé, à essayer de découvrir ces terroirs.
Gilles Brochard.
Oui, alors ce qui est intéressant, regardez une carte, même dans les hôtels. Il y a un grand palace qui vient d'ouvrir ces dernières semaines. Évidemment, j'ai retrouvé quelques fautes dans l'écriture des noms, mais souvent c'est classé soit par famille de thé, que ce soit un thé blanc, thé vert ou les thés rouges, les thés fermentés, ou par pays. Et c'est là où c'est comme les cartes des vins. Les vins, c'est par région. Et ensuite, vous avez ensuite les premiers crus ou des thés déclassés, classés, etc. Et c'est là où le bât blesse souvent. Moi, j'invite vraiment les Français à découvrir les thés des origines, à mettre de côté les thés parfumés, parce que c'est pas parce qu'on est jeune. Moi, je connais des enfants de 8-9 ans qui se sont mis au thé par les thés classiques, pas forcément les thés parfumés.
Notre médecin de l'âme, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous êtes mis récemment au thé.
Oui, en fait... Vraiment de façon très très anecdotique, mais par hasard, j'ai découvert un thé qui pour moi a rappelé quelque chose que je connaissais, qui était le goût que j'ai pour boire du whisky avec modération. C'était un thé fumé, le Lapsang Souchong. Et en fait, le plaisir que j'y trouve, c'est effectivement un plaisir de la dégustation. Et puis, alors que je ne connais pas bien, mais ce que je subodore, c'est le fait qu'il y a effectivement énormément de choses à savoir et à comprendre pour gagner en fait en subtilité et en expertise sur sa dégustation.
Et vous, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, quelle buveuse de thé êtes-vous ?
Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était pour une buveuse d'arabica, c'était vraiment du chinois tout ça, et que j'ai vu apprendre plein de choses cette heure-ci.
Allez, racontez-nous vos rituels du thé, dites-nous pourquoi le thé vous fait du bien. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Alexia Rivière, Léo Philippe, Antoine Vandeville et notre journaliste Théo Denmat m'ont aidé à préparer cette émission, et c'est Claire Destacan aux commandes de cette émission cette semaine.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Brigitte Bardot, Harley Davidson.
S'il vous plaît, on va prendre le thé.
Il est 7h passé.
Ben alors.
Grand bien vous fasse.
Vous devriez boire quelque chose de plus fort que ça.
C'est très tonique.
Sur France Inter.
10h19 et on s'intéresse ce matin aux vertus du thé en compagnie de deux grands spécialistes, Pierre Rival et Gilles Brochard, et avec la complicité d'Aline Perraudin de Santé Magazine qui n'y connaît rien en thé, hein, qui va essayer d'apprendre deux, trois choses ce matin. Bah si, elle l'a dit avant le disque. Alors avant de s'intéresser aux vertus du thé, j'aimerais qu'on évoque brièvement son histoire, hein, qui mériterait 3 ou 4 heures d'émission. Le thé a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité, qu'il s'agisse de l'histoire de la Chine, de l'Empire colonial britannique ou même de l'indépendance des États-Unis, Pierre Rival.
Alors, peut-être 3 anecdotes pour faire bref. Le thé a servi aux Chinois à empêcher les barbares de les envahir. Ils échangeaient du thé contre des chevaux. Ça se faisait à la frontière du Sichuan et ça leur permettait de monter une cavalerie et de battre ensuite les mêmes barbares qui leur avaient vendu les chevaux, mais qui étaient pleins de thé, sans doute un peu ivres et ne comprenaient plus ce qui leur arrivait. Ensuite, l'autre histoire, c'est le Japon. En fait, le thé est devenu l'arme des bouddhistes pour conquérir le Japon, à côté du shintoïsme bien entendu, et puis surtout le hold-up du siècle. Les Anglais, un jour, ont réussi à mettre la main sur le thé. On expliquera peut-être comment si on en a le temps.
Allez-y.
Alors c'est simple, en fait ils ont envoyé des botanistes voler des plants de thé et voler des graines de thé. Les Chinois ne sont pas nés de la dernière pluie, ils vendaient des graines qui étaient déjà grillées, ce qui empêchait de les reproduire. Donc ils ont eu beaucoup de mal et ils n'avaient pas le bon terroir. Et finalement, les Anglais ont découvert qu'il y avait un théier qui poussait, un théier sauvage, qui poussait dans la Sam. Et ils ont commencé à faire du thé avec ce théier avant de maîtriser la culture du thé chinois.
Alors à propos des Anglais, on oublie que le thé a joué un rôle important dans l'indépendance des États-Unis.
Absolument, c'est l'affaire de Boston. Les Anglais trouvaient que les Américains, qui étaient une colonie anglaise à l'époque, faisaient trop de contrebande. Ils décident de taxer le thé et les Américains américains, les colons américains de Boston se déguisent en indiens, prennent d'assaut les bateaux de l'East India Company, c'est-à-dire d'une compagnie anglaise qui vend du thé taxé, et le jettent à l'eau. Ce qui fait que pendant un certain temps, l'eau du thé du port de Boston a été buvable.
Quelles sont les origines du thé? Le thé sans doute connu en Chine depuis au moins le 2e ou 3e siècle avant notre ère?
Alors, on a effectivement la preuve que le thé au départ, c'est une boisson médicinale. Les Chinois ont deux mots. Il y a le mot tu et le mot cha. Tu, et en fait, ils s'écrivent quasiment de la même manière. Tu, cela veut dire herbe amère. Et en fait, toute la pharmacopée chinoise de cette époque-là, de l'époque des Han jusqu'à l'époque des Tang, est une pharmacopée à base d'herbes différentes, etc. À un moment, je dirais qu'il remonte probablement vers le 5e, 6e siècle, les Chinois se sont mis à comprendre comment on pouvait faire du thé et à maîtriser la culture du théier, et en la maîtrisant, à modifier même la structure du théier pour en faire une plante qui était une plante à la mesure de leur terroir. Et ils ont, en quelque sorte, créé le thé. C'est réellement les Chinois qui ont créé le thé et les différentes sortes de thé que nous connaissons encore aujourd'hui.
Quel rôle a joué Lu Yu, considéré comme le saint patron du thé, qui a consacré un premier livre à ce breuvage, le classique du thé?
Le classique du thé, d'abord, le mot classique n'est employé en chinois que pour des œuvres majeures écrites par des gens comme Confucius ou Lao Tzu. Et notre ami Lu Yu, à l'époque où il vivait, était un moine défroqué. C'était pas quelqu'un de très recommandable. Il a erré longtemps dans la Chine, qui était en pleine guerre civil, mais il s'est associé à une bande de lettrés et de hauts fonctionnaires qui se sont dit, dans cette Chine qui est totalement ravagée par la guerre civile, nous avons besoin d'un excitant qui ne soit pas alcoolisé. Parce que les barbares, quand ils boivent, deviennent très dangereux, sauf s'ils boivent du thé.
Comment le thé nous parvient-il en Occident, Gilles Brochard?
Pierre Rival a très bien parlé des compagnies des Indes orientales, notamment. Il est arrivé à la cour de France à peu près à l'époque de Louis XIII. Alors, c'est vrai qu'on ne savait pas le boire, on buvait un petit peu dans les sous-tasses. Après, on a créé les trembleuses et on a ritualisé. En effet, on pourrait parler des porcelaines qui ont joué un rôle très important à la cour du roi. Et surtout, ça s'est pas tellement popularisé. Il faudra attendre plutôt la fin 18e, le 19e, pour que vraiment le thé soit un petit peu connu dans la bourgeoisie notamment.
Pierre Rival.
En Europe, c'est les Anglais qui ont été réellement les passionnés du thé. Ils avaient des coffee shops, ils ont maintenant des tea shops, ça dit tout.
Des tea shops.
Et si vous voulez, en France, on a toujours des cafés, des cafétérias. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, les Anglais ont ritualisé le thé d'abord parce qu'ils avaient des petits déjeuners extrêmement riches et que tout d'un coup, pour les dames, eh ben, au lieu de boire de la bière ou de l'ale et de manger des rôtis, quelques petites biscottes avec du thé, ça passait mieux. Dès 1840, l'aristocratie anglaise s'est lancée dans ce qu'on appelait le afternoon tea, des petits sandwichs sympathiques qu'on buvait l'après-midi parce qu'on avait une petite faim, mais aussi la classe ouvrière et les mouvements féministes qui ont été très importants car ils étaient alliés au mouvement de lutte contre l'alcoolisme et ils ont réellement popularisé au sein de la population anglaise, de la totalité de la population anglaise, le thé.
Alors dès son apparition en Occident, le thé passe de curiosité scientifique à objet de controverse scientifique entre médecins. Certains médecins sont partisans de son usage pour ses vertus thérapeutiques et puis d'autres médecins pensent que le thé est un poison.
Non seulement, mais le principal, je m'excuserai, son nom m'échappe à la minute, mais le principal avocat du thé meurt à 39 ans en Allemagne et ses ennemis disent il est mort empoisonné par le thé, il en buvait trop.
Bonjour docteur Laurent Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste au CHU de Montpellier, expert éclairé de notre émission. Les vertus du thé sont-elles encore controversées chez les médecins?
Alors, il y a plusieurs aspects. Elles sont très probablement minimisées. Et un peu comme toutes les plantes en infusion. Je voudrais quand même souligner quelques aspects sur le thé actuel, notamment les thés aromatisés. Un certain nombre de thés aromatisés peuvent avoir des arômes de synthèse, des arômes artificiels même pour les thés parfumés. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et la pollution aussi en Chine retentit sur un grand nombre d'éléments et notamment sur les plantes. Donc on est un petit peu nuancé par rapport à certains types de thés. Il faut effectivement bien les choisir, donc c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. D'autre part, le thé est un diurétique aussi, il contient des alcaloïdes, c'est un diurétique. Et le matin au petit déjeuner, quand vous prenez ça, c'est bien, mais très souvent, la nuit, on est un petit peu sué, soit l'été, soit l'hiver, parce que les appartements, c'est un peu trop chauffé, donc il ne faut pas oublier de bien s'hydrater. Et le thé ne permet pas une hydratation suffisante. Donc il faut être un petit peu nuancé.
Que sait-on des études scientifiques menées sur les vertus du thé ? Je pense par exemple à une étude de l'université de Boston, aux États-Unis, qui montre que boire 19 tasses de thé par semaine endiguerait le risque de maladies cardiovasculaires en faisant baisser la tension artérielle et en réduisant le taux de cholestérol.
Alors effectivement, on a un certain nombre d'études qui vont dans ce sens-là, et effectivement le thé en tant que tel, le vrai thé, le bon thé, encore une fois pas forcément aromatisé, eh bien c'est un thé qui va être un protecteur cardiovasculaire, et puis c'est un thé, les thés aussi sont des protecteurs par rapport au cancer. On a un certain nombre d'études par rapport à ça. Alors ce sont surtout des études expérimentales, donc chez l'animal, mais ça a des vertus intéressantes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va limiter la prolifération des cellules tumorales et il va créer ce qu'on appelle l'apoptose, la destruction aussi des cellules tumorales. Donc dans ce sens-là, le thé est intéressant.
Alors en revanche, ce que l'on sait de façon certaine, c'est que le thé contient de la caféine, un stimulant pour le corps et l'esprit. C'est la même caféine que l'on retrouve dans le café ?
Oui. Mais en concentration bien moindre. On a beaucoup moins de caféine, donc la théine et la caféine sont la même chose dans le thé que dans le café.
Pierre Rival, le thé excite autant que le café ?
Je crois qu'il excite différemment. J'ai été un buveur de café, je l'avoue, je le confesse, et j'en buvais notamment comme tout le monde et comme tous les Français après le déjeuner, et j'avais tendance entre 3 et 4 heures à m'assoupir. Depuis que je prends du thé vert après mon déjeuner, je suis en pleine forme et j'écris l'après-midi ce que je ne faisais pas auparavant.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
En fait, il stimule moins vite, mais plus longtemps.
Et Laurent Chevalier, docteur Laurent Chevalier, pourquoi un thé qui infuse longtemps contient moins de caféine ?
Alors, bon, on a des choses un petit peu controversées par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le thé est intéressant aussi, puisque c'est un antioxydant, c'est-à-dire que par les polyphénols qu'il contient, il permet de neutraliser un certain nombre d'éléments indésirables qu'on peut avoir au niveau du corps. Donc c'est un produit qui est un produit vraiment intéressant. Par ce biais-là encore, faut-il encore une fois bien le choisir.
Pierre Rival.
Je suis d'accord d'abord sur l'appréciation concernant les thés parfumés. Je pense que la plupart des thés parfumés, quand je vois par exemple des thés à la tarte tatin, permettez-moi de vous dire que je rigole, parce qu'effectivement on ne mélange pas le thé avec de la tarte tatin, et là on parle d'arôme artificiel. Il y a quelques produits naturels qui font des thés parfumés excellents. Ouais. Je pense par exemple au thé au jasmin, mais pas le thé au jasmin qu'on mange dans les bouis-bouis chinois de Paris. Mmh. Je parle du vrai thé au jasmin qui vient du Fujian.
Avec
des vraies fleurs de jasmin qui sont mélangées pendant tout un processus qui dure plusieurs jours. Je pense aussi plus classiquement au thé à la menthe par exemple. Il y a quelques produits qu'on peut mélanger.
Laurent Chevalier, quels sont les petits vices du thé ? Le thé empêche la bonne assimilation du fer ?
Alors, il faut en consommer des grandes quantités. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un chélateur du fer, c'est-à-dire qu'il va empêcher pour partie l'assimilation du fer. Bon, Lucie, qui consomme 4 à 6 tasses par jour, elle est un petit peu au maximum, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Après, il faut voir que ça concerne un certain type de fer, c'est-à-dire le fer qui est plutôt dans les légumes et pas le fer de la viande ou du poisson. Donc, dit le fer non héminique. Mais on peut, avec une consommation un petit peu accrue de vitamine C, contrecarrer un petit peu ça. Et puis, ce qu'on peut conseiller aussi pour éviter donc cette chélation, c'est empêcher ce fer d'être assimilé, c'est de prendre tout simplement du thé aussi entre les repas. Et donc, c'est quelque chose qui marche très très bien.
Et Laurent Chevalier, le thé interagit avec certains médicaments, notamment les anticoagulants, c'est ça ?
Alors, le thé peut interagir avec certains médicaments, mais il faudra en consommer des grandes quantités. Donc là, il n'y a absolument rien à craindre. Si vous restez à jusqu'à 3-4 tasses par jour, vous n'avez strictement rien à craindre.
Aline Perraudin, vous vous êtes penchée sur les prétendues vertus amincissantes du thé vert. Qu'en est-il ?
Oui, on a dit plein de choses sur le thé, qu'il était bon pour la santé, mais aussi qu'il aidait à maigrir. Et malheureusement, il y a eu une méta-analyse, c'est-à-dire qui a analysé toutes les études parues ces dernières années et qui a montré que le thé bien n'aidait pas à maigrir et à stabiliser son poids chez des gens en surpoids ou obèses. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Souvent, on voit des études comme ça, on parle d'études, notamment dans la presse, encore là, ces derniers jours, sur le thé noir. Mais ce sont des études faites sur des souris et non pas chez des humains, et de la souris à l'homme, on sait que eh bien il y a un pas très grand et qu'on peut pas franchir.
Jim Rochard.
Oui, alors on peut dire aussi qu'il y a des thés qui appellent à une meilleure digestion. Je pense à des thés noirs post-fermentés comme le pu'er qui vient du Yunnan, qui sont dits des thés mange-graisse. Ça ne veut pas dire qu'on va maigrir, mais on va mieux digérer, par exemple, des types de produits comme la viande.
Alors, si on fait comme Pierre Rival et que c'est une alternative au vin, ça peut être bien parce que c'est zéro calorie si on ne sucre pas. Là, oui, mais sinon, pour maigrir, vraiment, il faut faire. Il faut vraiment. On peut pas compter sur une boisson uniquement pour perdre du poids.
Merci beaucoup, docteur. Laurent Chevalier. Bienvenue Nathalie.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes une adepte du pu'er. Alors c'est quoi le pu'er? Expliquez-nous, il vient d'en parler Gilles Brochard.
Allô?
Oui Nathalie, oui. C'est quoi le pu'er?
Alors moi j'ai une passion pour le pu'er, je l'ai découvert quand je vivais à Paris. Le pu'er c'est un thé de... C'est peut-être même pas du thé, il est peut-être déthéiné comme le rooibos, il faudra me le dire.
Non.
C'est un vrai thé.
Il a des vertus hydratantes très très bénéfiques. Je sais qu'il est très apprécié des connaisseurs de whisky, puisque c'est un thé en fait qui est
beau. Ça va plaire à Thibaut de Saint-Maurice.
Et des fumeurs de cigares, parce qu'il y a des pu'ers qui s'associent avec des fumeurs.
Il est très terreux, il est épais. Moi je l'aime quand il est infusé longuement avec une eau qui n'a pas bouilli. Moi je l'aime quand il est noir et épais. Je sais que un seul sachet peut être pris pour la journée, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amertume. Et puis bon, pour ma part, il a des vertus hydratantes au niveau viscéral. Donc après une soirée arrosée, il peut être très très bien pour se rétablir le lendemain.
Donc vous conseillez le thé pu'er.
Moi je l'adorais au petit déjeuner avec du poisson.
Ah,
et je l'alternais avec le Lamsang Shushang, donc je suis une passionnée aussi.
Et vous le prenez en vrac ou en brique, en
alors, moi, quand j'étais à Paris, je l'achetais en vrac dans le 6e, chez une petite mamie chinoise.
Ouais.
J'achetais les 6 forteresses, entre autres. Après, je l'ai retrouvé chez Daman en nid, ou comme du copeau de bois.
Donc c'est
ou
pressé, c'est pressé. C'est.
Voilà.
C'est comme dans des moules, on a bloqué les feuilles comme ça dans des moules et on casse un petit morceau et on l'infuse dans l'eau.
Et à Clermont-Ferrand où je vis aujourd'hui, je le trouve très peu parce qu'il est devenu extrêmement cher.
Vous avez un excellent comptoir à Clermont-Ferrand pourtant, de thé.
On vous donnera les adresses hors antenne. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelé. Allez, il est temps de retrouver la petite philo de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Veuillez d'abord vous rincer les mains et la bouche à la source avant d'entrer.
Le jardin sépare la salle de thé du monde ordinaire, comme le recommande la pensée zen. L'être se sent ainsi immergé dans la nature selon la pensée zen. Le moindre geste doit avoir un sens. La cérémonie du thé est aussi une méditation. Boire ensemble un bol de thé, c'est se lier avec son visiteur. Les cœurs se rapprochent. Nous disons que toute la vie est contenue dans un bol de thé.
Ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, puisque nous parlons du thé, vous vous penchez sur la place des rites, des rituels dans notre vie quotidienne.
Oui, Ali, on en a déjà un petit peu parlé, puis on vient de l'entendre, donc dans ce reportage d'Arte 360. Le thé n'est pas qu'une boisson, c'est aussi tout un ensemble donc de traditions, de pratiques, de cérémonies et puis de manières de faire. C'est aussi donc tout un ensemble de rites. On l'a aussi évoqué tout à l'heure, le tea time anglais à 5h, la cérémonie du thé, pardon, on vient de l'entendre, ou simplement aussi vous, Ali, le thé que vous prenez tous les jours, il faut le dire. dire à vos éditeurs entre 10h et 11h. Et c'est un rite bien important parce que s'il n'y a pas de thé, eh bien, il n'y a pas d'émission.
Exactement.
Tout simplement. Voilà. Alors, le thé, c'est une chose, mais plus largement, hein, pourquoi avons-nous besoin de rites et quelle place occupent ces rites dans nos vies?
Déjà, Thibaut, expliquez-nous la différence entre le rite et l'habitude.
Oui, commençons par distinguer parce que toutes nos habitudes ne sont pas des rites et tous les rites que nous pratiquons ne sont pas si habituels que ça. L'habitude, c'est une action ou un usage que nous répétons et qui, petit à petit, se sédimente dans notre expérience, ce qui fait que nous finissons par agir par habitude, sans donc toujours nous en rendre compte. Une habitude, ça s'acquiert, ça se transmet, et c'est parfois bien difficile à perdre. Le rite, lui, c'est plutôt une action codifiée au sein d'un groupe. Alors, c'est pas que c'est une habitude plus forte, mais c'est plutôt une sorte d'habitude plus collective. Et pas étonnant du coup que la sociologie naisse notamment à travers l'étude des rites, avec Émile Durkheim par exemple, et son travail sur les formes élémentaires de vie religieuse. Il y a dans le rite un souci de la tradition, c'est-à-dire de ce qui se transmet et de ce qui soude un groupe social, de ce qui est finalement sacré, de ce qui va constituer le sacré pour un groupe social. Et c'est pour ça que le rite est plus souvent une prescription à respecter, une habitude collective, d'accord, mais qu'il faut respecter sous peine de sanctions plus ou moins fortes.
Mais le rite n'est pas seulement religieux ?
Et non, parce qu'après, c'est toute notre vie quotidienne qui va être structurée par des rites. Et cette fois, c'est ce que montre le travail du grand sociologue Erwin Goffman. Il y a des rites minuscules dans nos vies, hein. Au sein d'une famille, par exemple, ça va être une certaine manière de découper le pain ou de préparer le petit déjeuner. Et il y a des rites plus institutionnels, c'est-à-dire qui vont organiser notre relation à des institutions, la rentrée des classes, par exemple, l'hospitalisation, les rites de passage aussi, comme le service militaire, le bac ou l'entrée dans la vie active. Bref, tous ces rites sont l'occasion d'agir en étant traversés par du lien social. Ce n'est pas moi qui décide d'agir comme ça, de façon rituelle, mais en me pliant au rite, je témoigne de mon appartenance au groupe.
Et parfois, les rites sont un peu pesants.
Oui, c'est vrai, le rituel nous paraît parfois un peu trop lourd, un peu trop contraignant, et puis sans grand intérêt finalement. Pourtant, tous les rites de notre vie nous rendent un grand service, parce qu'ils nous permettent de limiter l'imprévu de nos vies, de nous garantir de l'aléatoire et de mettre de l'ordre dans nos relations avec les autres. On l'a entendu dans le reportage, hein, quand on partage un bol de thé, on se lie avec quelqu'un d'autre. La difficulté de notre condition humaine, c'est sa contingence, parce que nous ne maîtrisons pas le cours des événements. Tout peut arriver à tout moment et même nos liens affectifs, amicaux, sociaux peuvent se défaire à tout moment. Eh bien, les rites sont là pour conjurer cet aléatoire de nos vies. Ils construisent un cadre qui, finalement, nous libère. Quoi qu'il se passe, où que je sois, à 17h, c'est l'heure du thé. C'est pas rassurant, ça ?
La petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice. Gilles Brochard, Pierre Rival, ce qui est paradoxal avec le thé, c'est que c'est après l'eau, on le disait, la boisson la plus consommée au monde, la plus populaire, et en même temps, c'est une boisson au rituel raffiné, réservé à des initiés, à des connaisseurs capables de reconnaître les yeux fermés, les crus les plus prestigieux.
Il y a plusieurs niveaux de rituels dans le thé. Il y a, je dirais, le rituel de la dégustation, que j'apparenterais, moi, au rituel de la dégustation du vin qu'on connaît bien en France, faire tourner... regarder, juger de la couleur de la robe, des arômes, passer au goût. Quand on rentre dans la cérémonie du thé japonaise, chanoyu, là, c'est une véritable cérémonie. Et c'est une cérémonie, c'est tellement une cérémonie quasi religieuse que quand les jésuites portugais sont arrivés au Japon au 15e siècle, ils ont compris qu'ils devaient assimiler cette cérémonie pour être acceptés au sein des élites japonaises. Et ils ont été les premiers occidentaux dès la fin du 15e siècle à être à pratiquer la cérémonie du thé.
Gilles Brochard, les rituels autour du thé peuvent faire peur et peuvent parfois apparaître comme un peu snob.
Non, parce que alors si vous allez, ça dépend où on se place aussi, parce que si vous allez en Chine, même moi je suis allé dans des campagnes chinoises, vous avez des enfants qui pratiquent le rituel du Gongfu Cha sur des petits plateaux avec des petites théières et qui font et qui boivent leur thé comme ça. Donc ça fait partie aussi d'un rituel quasi familial. En revanche, en France, évidemment, tout ce qui touche à ce genre de rituel, on passe pour un snob, alors que c'est des éléments très simples de la vie et de la contemplation chinoise ou japonaise.
Allez, dites-nous quels sont vos rituels du thé, 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, à radiofrance.com.
J'ai le barbare, je nage dans le murmure des vagues. J'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage.
Julien Doré, Porto Vecchio.
Voulez-vous une bonne tasse de thé ?
Mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça ?
Juste une demi-tasse pour moi.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
11h moins le quart et on s'intéresse ce matin aux vertus du thé avec deux grands spécialistes, Pierre Rival qui publie l'excellent Le thé pour les nuls et le journaliste et écrivain Gilles Brochard.
Le thé est récolté durant les quatre saisons. C'est au printemps qu'il sera le meilleur. Une fois cueilli, le temps presse. Les feuilles fraîches sont rapidement acheminées jusqu'à l'usine pour ne pas qu'elles s'abîment.
Ici, vous avez du thé, mais si je mets ça dans une tasse et que je verse de l'eau chaude, il n'y aura rien. Parce que pour obtenir du thé, il va falloir malmener un peu la feuille. Il faut qu'elle soit déshydratée. Et ce qu'on veut au contraire, c'est que la feuille de thé, elle soit concentrée en huile essentielle, qu'elle soit riche en arômes. Et pour ça, il faut qu'elle commence par perdre sa flotte qui est contenue en elle.
Puis vient le temps du roulage. Le défi, ne surtout pas casser la feuille. La conserver entière pour en faire ressortir toute la saveur. Mais ce qui va réellement donner au thé sa forme et son goût final, c'est l'oxydation. Au départ, la feuille est verte. Mais c'est à cette étape qu'elle va changer de couleur et pourra donner un thé blanc, jaune, vert, bleu ou noir.
Alors c'est donc le théier, le Camellia sinensis qui produit tous les types de thé. Les principaux jardins de thé se trouvent en Chine, en Inde, au Sri Lanka. On l'a entendu, une fois cueillies, les feuilles du théier subissent un cycle de fabrication qui conduit au thé. Ces différents traitements, Pierre Rival, vont modifier l'arôme et le goût une fois que ces feuilles auront infusé.
Il y a plusieurs sortes de thé et chaque sorte de thé correspond à un style de fabrication. Dans le reportage que nous venons d'entendre, il manque pour le thé vert une phase essentielle qui est la phase de la torréfaction. Et dans la torréfaction, il y a trois sortes de torréfaction. Ça peut être l'étuvage, ça peut être la cuisson au wok ou ça peut être la cuisson au four. L'intéressant, les Chinois appellent ça tuer le vert. Et pourtant, c'est pour faire du thé vert. Pourquoi tuer le vert? Parce qu'en réalité, quand on cuit au wok, quand on torréfie au wok ou au four, la liqueur qui sort va être une liqueur plutôt jaune que verte. Mais les Japonais qui ont gardé l'antique tradition chinoise de la torréfaction par la vapeur ont un thé d'un vert immaculé, le vert de jade, on dit en japonais gyokuro.
Pourquoi parle-t-on, Gilles Brochard, de thé fermenté, de thé non fermenté, de thé semi-fermenté? On s'y perd un petit peu.
Alors, tout ce qui est partiellement fermenté, c'est-à-dire fermenté à 20% jusqu'à 60%, c'est ce qu'on appelle les houlongs. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les thés du dragon. Les thés vont être roulés, d'ailleurs. Et quand on va infuser ces feuilles, elles vont s'ouvrir comme les ailes d'un dragon, en fait. C'est un petit peu ça, pour faire simple. Et puis, les thés que vous avez, tout à l'heure, on parlait du Kimun, on peut parler du Yunnan, les Darjeeling, ce sont des thés qui ont subi une fermentation. Alors tout ça, évidemment, c'est oxydation, fermentation.
Oula, je m'y perds, Pierre Rival.
Je vais me permettre une petite distinction, sans contredire mon ami Gilles Brochard, bien entendu. L'oxydation, c'est tout ce qui concerne les thés noirs, et aussi les houlongs, qui sont des thés semi-oxydés. La fermentation, c'est différent. On entasse les feuilles de thé vert, en tout cas, les feuilles de thé simplement, et on les fait vieillir. Il y a des formes de vieillissement artificiel ou il y a des formes de vieillissement naturel, mais ça donne le pu'er. Le pu'er est un thé fermenté, et parce qu'il y a simplement un bacille qui s'introduit dans ces tas, comme du fumier tout simplement, et qui change radicalement le goût du thé.
Et dans des caves humides d'ailleurs.
Et le thé pu'er, c'est un thé intéressant, parce que c'est le seul thé qui, en vieillissant, s'améliore. Et comme il s'améliore, eh bien les Chinois, qui sont des grands joueurs, ont commencé à spéculer sur le pu'er. Et je me rappelle être allé à Hong Kong et avoir assisté à des ventes aux enchères de thé pu'er où on vendait les 100 grammes de pu'er pour 50 000 euros.
Pour faire simple, le thé noir, c'est un thé fermenté.
C'est un thé oxydé.
Oxydé.
Le pu'er, c'est un thé fermenté.
Et le thé vert?
Et le thé vert, c'est un thé qui a été torréfié. C'est-à-dire ce sont des feuilles de thé qui ont été torréfiées.
Quels sont les...
Et les thés blancs, Ali, il faut peut-être le préciser, oui. Ce ne sont que des bourgeons. Hein, parce que la feuille, c'est le bourgeon terminal et la première feuille, généralement. On ne parle pas des thés industriels, etc. Donc le thé blanc, c'est un thé un petit peu plus racé, évidemment, avec que ces bourgeons. Donc le parfum est encore plus subtil.
Quelles sont les grandes différences gustatives, très vite, entre les thés verts, noirs et blancs?
Alors, les thés verts sont des thés plus végétaux, effectivement. Ils peuvent être astringents si on les infuse trop longtemps, mais ils peuvent être très très doux, au contraire. Les thés noirs sont plus noirs, plus noirs en bouche.
Mais il faut dire peut-être que les thés de Chine sont moins astringents que les thés du Sri Lanka ou de Darjeeling, et les Assam, etc.
Parce que c'est le type de théier qui est en jeu, là, effectivement, et le type de feuille qui est en jeu.
Quel est le thé le plus consommé en France?
C'est le thé noir à 51%, le thé vert à 49%, il y a réellement une remontée du thé vert en France actuellement.
Un chiffre, 230 grammes de thé par an et par habitant en France, contre 2,3 kg au Royaume-Uni.
Alors, on et 7 kg en Turquie.
Ouais. Alors nous avons la chance d'avoir deux grands spécialistes et connaisseurs autour de nous. Comment réussir une bonne infusion, Pierre Rival? D'abord la qualité de l'eau.
Alors, premièrement, la qualité de l'eau. Il faut prendre une eau avec un pH extrêmement neutre. Moi, je choisis des eaux dites minérales, mais elles sont très peu minéralisées, dont on se sert pour les biberons. Je biberonne, donc.
C'est le grand-père qui parle.
Ensuite, absolument, et mon petit-fils boit déjà du thé.
Il a quel âge?
Il a 2 ans.
Ah bon?
Mais comme il vit en Russie avec ses parents, il boit du thé parce qu'on boit beaucoup de thé en Russie.
Est-ce qu'on fait bouillir l'eau?
Alors non, il faut surtout pas la faire bouillir. En tout cas, il faut arriver jusqu'au point d'ébullition et il faut s'arrêter avant. Et de toute manière, même si vous avez fait bouillir l'eau, ce qui est dommage, eh bien, vous laissez un peu le thé se refroidir, même quand c'est indiqué à 90.
Alors Ali, moi je conseille des bouilloires, hein, type Riviera et Bar. Il y a d'autres marques.
Linex.
Oui, voilà. Et vous contrôlez
marques.
le vous avez 70, 80, 90, 95 degrés, et ça, c'est l'idéal.
Quelle quantité de thé? 2,5 grammes pour 15 centilitres d'eau par personne, c'est
ça? Alors moi, je vais vous le dire ça simplement, je dirais 4 grammes pour 2 personnes.
Oui, très bien. Oui. Oui, parce que ça se boit au moins à 2,
voilà,
le thé.
Il faut juste une balance.
Quelle est la durée idéale de l'infusion?
Alors, pour le thé vert, on tourne autour de 1 minute jusqu'à 2 minutes pour les amateurs de thé plus astringents. Pour les houlongs, on est entre 3 et 4. Pour les thés noirs, dits thés rouges en Chine, on est à 4-5 minutes. Je pense qu'il ne faut pas y avoir une religion sur ces questions-là.
Mais alors, le houlong, Pierre, il faut peut-être préciser que les feuilles mettent plus de temps à s'ouvrir, on peut faire jusqu'à 5-6 minutes. Si on le fait sous forme de gonfucha, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire une infusion d'une minute en enlevant tout simplement la liqueur, et il y a plus d'eau au contact des feuilles. On peut le refaire plusieurs fois comme ça jusqu'à 7 minutes.
Pierre Rival, vous êtes contre une certaine religion?
Moi, je pense qu'à partir du moment où on connaît les grandes catégories, il faut fonctionner au goût personnel. Si vous aimez un thé vert un peu plus astringent, allez-y jusqu'à 2 minutes, c'est en fonction de votre goût personnel. Bien entendu, il ne faut pas détruire le thé, on est d'accord.
Et puis la première condition d'une bonne dégustation du thé, c'est la sociabilité. Je cite Li Tuyang dans son ouvrage « L'importance de vivre ». Enlever l'élément de sociabilité et cela n'a plus aucun sens. Le plaisir de la dégustation du thé, comme le plaisir de contempler la lune, la neige ou les fleurs, doit se dérouler en bonne compagnie. Pierre Rival.
Alors, les Chinois pensent que le nombre idéal, c'est 3 personnes, et curieusement, les Bédouins aussi.
Et oui, dans l'étiquette des peuples nomades du Sahara, boire le thé seul ou à deux est considéré comme une atteinte aux lois de l'hospitalité. Bonjour Annie.
Bonjour. Alors, je vous écoute avec vraiment passion et je rigole toute seule parce que je me retrouve dans tout ce que vous dites. Je voudrais peut-être commencer par le rituel. Moi, je me rends compte que le thé est devenu un rituel de façon instinctive, puisque ça fait 30 ans que je bois du thé. Et je bois du thé, comme je l'ai expliqué à vos techniciennes, je ne me suis pas rendu compte, mais vraiment en m'organisant. C'est-à-dire, je ne vais pas le boire vite, je vais prendre le temps de le préparer, que ça peut être le matin, même si je ne suis pas réveillée, j'ai besoin de ce thé, je vais choisir ma tasse. Il est hors de question de prendre une tasse ou un bol avec un gros rebord. Quand vous parliez de rites, c'est vrai que j'ai plein de théières, j'ai plein de mugs au beurre très fin, parce que le thé doit se prendre, à mon sens et à mon goût, dans un contenant au beurre très fin, parce que le thé est quelque chose pour moi de goûteux. C'est vrai qu'on l'assimile au vin, et je suis une amatrice de vin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans le thé. J'ai beaucoup ri lorsqu'on avait dit que boire du thé, c'était snob. Moi, très tôt, je prenais mon thé, par exemple, le week-end, je me posais, j'appelais mes filles, c'était le moment de la pause, je choisissais mon plateau, le thé, ma théière, mes filles en buvaient, n'en buvaient pas, mais nous étions ensemble, et c'est toujours le rythme du week-end, elles sont très grandes maintenant, on se pose, il y a un moment, où ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures, on se pose, et au salon, jamais à table. Au salon, moi je suis toujours à genoux pour servir le thé, mais c'est de façon inconsciente, c'est pas parce que j'ai voulu imiter une tradition ou un rite, c'est venu tout seul. Je pense que le thé, lorsqu'on est amateur du thé, il nous appelle à avoir des postures.
Merci Annie, merci beaucoup pour votre témoignage. Question existentielle, lait ou pas dans le thé, citron ou pas dans le thé, Gilles Brochard?
Non, alors on n'est pas les Anglais. Les Anglais en mettent parce qu'ils ont créé les blends et qu'ils sont plus amateurs de lait que de thé, mais personnellement non.
Et le citron dans le thé?
Trop acide.
Si vous voulez, les thés qui sont des thés industriels, parfois, pourquoi pas du citron?
Aline Perraudin.
Moi, j'ai une question pour les deux spécialistes. J'ai vu un chercheur australien qui disait qu'il valait mieux chauffer le thé au micro-ondes pour profiter de ses antioxydants. Donc, je voudrais les faire réagir. Est-ce que c'est vraiment à bannir?
Moi, ça ne viendrait pas à l'idée. Pourquoi réchauffer? Puisqu'on le fait chauffer dans la bouilloire. Il y a la bouilloire, la théière et ensuite la tasse. Je ne vois pas l'intérêt.
Donc, pour le goût, ça n'a aucun intérêt.
Non. Bonjour, Sylvie Metzelaar.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du mensuel 60 millions de consommateurs. Dans le dernier numéro en kiosque, un banc d'essai de thé vert et de thé noir. La grande particularité du thé, c'est de ne pas être nettoyé ni lors de sa récolte, ni lors de sa préparation, avec forcément des contaminants plus ou moins naturels.
Oui, c'est absolument ça. pas, en fait, le thé n'est jamais lavé, mais non seulement il n'est pas, il y a des contaminants naturels, mais on a aussi tous ces, alors, c'est ce qu'on appelle les alcaloïdes pyrrolizidiniques, c'est pas facile à dire, en fait, c'est des toxiques naturels qui préviennent des mauvaises herbes. Donc, si vous triez mal vos feuilles de thé, vous pouvez en avoir, et ça, c'est vraiment très fâcheux.
Alors, vous avez passé au crible 16 thés noirs Earl Grey et 10 thés verts à la menthe. Ouais. Quels sont les meilleurs thés noirs Earl Grey selon votre banc d'essai sur le podium, les trois premiers?
Alors, les trois premiers, alors on a un thé... Vous voulez les marques?
Oui, oui, allez-y. Bon,
on a un thé mariage, alors, qui est de loin le plus cher du panel, mais qui est, alors pour les thés noirs, mais qui est suivi de très près par un thé Auchan bio, donc par une marque distributeur. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi, et suivi d'assez près par le Palais d'été.
Et le Earl Grey bio du Palais d'été. Alors, je redonne le podium.
Ouais,
le Earl Grey impérial de chez Mariage Frères, le thé noir Earl Grey aromatisé de la marque Auchan bio, et le Earl Grey bio du Palais d'été. Alors, parmi les pires thés Earl Grey, surprise, un thé bio.
Ah oui, il y a un thé bio. Alors en fait, c'est un thé bio qui n'est pas, qui a été contaminé. On a retrouvé dedans un répulsif pour les oiseaux à une dose très 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 largement au-dessus des moyennes autorisées.
Alors 6,5 sur 20 pour ce thé bio de la marque Village de Bio Village de la marque Repère de Leclerc. Ensuite, juste avant, 6,5 également, le Lipton Earl Grey.
Alors, le Lipton Earl Grey, lui, il a été beaucoup pénalisé, notamment pour les alcaloïdes, donc ces fameux contaminants naturels, alors qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de thés noirs. Hein, il faut être précis là-dessus. Et en fait, ça, c'est un vrai souci, ces alcaloïdes, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on n'a pas de limite réglementaire sur ces toxiques, alors qu'on sait que certaines de ces toxines d'alcaloïdes sont cancérogènes.
Pierre Rival,
donc, ça, c'est
oui,
un vrai souci.
J'aimerais intervenir, parce que je trouve que ce classement extrêmement intéressant, mais j'aimerais simplement signaler le fait que les grands industriels, on a cité le cas de Lipton par exemple, achètent le thé à la tonne et en vrac, et que les thés noirs qu'ils présentent sur le marché, même s'ils sont bio, proviennent de plusieurs origines. Ça peut être l'Argentine, ça peut être
l'Afrique.
Voilà. Et donc, je recommande les thés de fermiers. Ce sont les thés de fermier. Les Japonais ont fait un énorme travail sur le bio. Les Chinois commencent, ils sont encore loin.
Sylvie Metzeler, en revanche, les thés verts semblent moins contaminés.
Les thés verts sont moins contaminés, effectivement. Donc, à la fois par les alcaloïdes naturels et par les pesticides divers et variés. Il y en a un, quand même.
Très vite, quels sont les trois meilleurs thés verts à la menthe, selon 60 millions de consommateurs?
Alors, encore un U bio, c'est encore un bio. C'est donc de la marque U, c'est donc une marque distributeur. Un Lipton, un Che Lipton, un Che thé vert à la menthe, hein, toujours. Et un Love Organique, qui est à nouveau un bio.
Merci beaucoup. On peut lire ce banc d'essai dans le 60 millions de consommateurs de ce mois. Très vite, vous conseillez plutôt d'acheter du thé en vrac, Gilles Brochard, Pierre Rival?
Oui, mais absolument.
Alors, nous sommes tous tout les en deux sachant maintenant qu'il y a des sachets d'inylon, mais qui sont de l'amidon de maïs ou qui contiennent du vrac à l'intérieur aussi.
Moi, je conseille d'acheter du thé en vrac et d'acheter du thé d'origine, c'est-à-dire des thés qui proviennent d'endroits que l'on peut identifier.
Merci beaucoup, Pierre Rival. Je recommande vraiment le thé pour les nuls chez First. Merci beaucoup, Gilles Brochard, d'être venu.
Un peu de thé, un peu de conversation.
Exactement. Demain, vous verrez que vous pouvez être votre meilleur psy. Nous verrons quand il est nécessaire de consulter et quand une bonne connaissance lucide de soi suffit, en compagnie du psychiatre Antoine Pellissolo. À la technique ce matin, Arnaud Caillé, Elisabeth Collet.